Un micro dans la ville sur Marmite FM 88.4. Nouradine Agne.
La semaine des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés a débuté le 7 novembre et se terminera le 15 novembre à Saint-Quentin-en-Yvelines. À cette occasion, des artistes, des journalistes, des cinéastes ou encore des bédéistes réfugiés en France vont à la rencontre de collégiens, de lycéens saint-quentinois pour raconter leur parcours d'exil. Parmi les invités de la semaine des écrivains, Nim, qui est bédéiste et caricaturiste algérien, réfugié en France depuis le mois de juin, pour avoir réalisé des dessins critiques à l'égard du pouvoir algérien. Dans l'extrait qui suit, Nim nous explique comment la couverture des événements du Irak en 2019, sur les réseaux sociaux notamment, l'ont conduit en prison.
À partir de quand vous sentez que vos dessins posent un problème? Est-ce que quand vous avez vu que, j'ai créé ma boîte, tout se passe bien pour moi, mais je continue à faire des dessins sur Internet. Mes dessins, ils marchent très bien, ils marchent tellement bien que dans les manifestations, les gens, ils font des photocopies de mes dessins, ou carrément, ils font des grands formats de mes dessins. Est-ce que vous vous êtes dit, oulala, il y a des problèmes qui vont arriver là? Parce que là, vous commencez à être connu du coup partout, oui. Et vous êtes ciblé comme un opposant là.
Exactement.
Clairement.
Donc déjà, je ne montrais pas mon visage, je ne signais pas avec mon vrai nom, j'avais un pseudo. Et à partir du moment où les gens me contactaient sur les réseaux sociaux pour me dire, allez-y, on attend vraiment le prochain dessin, parce que le vendredi prochain, on attend pour l'imprimer. Et quand on voit ça, je commençais à me dire, ah, peut-être que j'aurai peut-être des petits soucis, peut-être qu'il y aura la police qui va venir faire une enquête ou des coups de téléphone. Mais jusque-là, j'avais rien reçu, donc j'ai continué à dessiner.
Rien, pas un coup de téléphone, pas un truc, aucune menace?
Rien du tout.
Sauf qu'un jour...
On a
frappé à la porte de votre entreprise.
Oui.
Et racontez-nous, qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'était une journée normale. J'étais à l'entreprise
2019.
En 2019. C'était juste avant les élections. Et j'avais fait, je m'en rappelle, un dessin où il y avait le chef d'état d'armée qui mettait le soulier de Cendrillon. Alors, le dessin, c'est à gauche, on a les 5 candidats à la présidence. À droite, on a le chef d'état d'armée, et lui le cinquième, qui est le président actuel. Et ça, c'était 2 mois avant les élections. Donc,
c'est le chef de l'armée.
Chef de l'armée et le premier ministre. Alors là, le dessin, c'est pour dire que le vote ne sert à rien. C'est de toute façon l'armée qui choisit.
D'accord.
Donc pour illustrer ça, j'ai fait une petite référence à la chaussure de verre de Cendrillon. Voilà, et que c'est l'armée qui choisit, avec en arrière-plan une sculpture de Bouteflika qui a été déchue, mais qui est toujours là, qui est toujours présent. C'est les mêmes, parce que tous les candidats qui sont là, c'est les ministres de l'ancien président. Donc j'ai illustré ça comme ça, et aussi c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à faire des dessins sans texte, parce que je m'étais rendu compte que en Algérie, quand j'écrivais souvent en français et que je touchais peut-être une élite. Et là, je me suis dit, tiens, je vais commencer à essayer de résumer, à faire passer des messages et moi, comment je vois les choses, sans texte, sur des dessins qui peuvent être compris par tout le monde. Et c'est là où ça a explosé. Parce que pour ce dessin-là, qui a été vraiment aussi massivement
partagé
et tout ça.
Dans les manifestations.
Un jour, alors que j'étais dans mon entreprise, il y a eu 8 civils. Enfin
des hommes, 8 civils.
Ouais, civils, qui sont rentrés, qui ont coupé les caméras de surveillance, ils ont pris nos téléphones à toute l'équipe, ils ont débranché tous les PC, et ils m'ont demandé où est-ce que tu dessines, sur quel PC tu dessines. Donc j'ai montré, pas de manche, je dessine ici, tout ça. Ils ont embarqué tout, ils m'ont dit, vous allez nous suivre. Donc on est parti de mon agence, ils ont tout confisqué, et je suis parti. Alors, on est parti d'abord chez moi, à la maison, perquisition. Ils ont aussi fouillé toute ma maison. Ils ont pris des PC portables, PC de ma compagne, enfin des trucs qui n'avaient rien à voir. et garde à vue. Donc garde à vue, c'est les policiers, j'ai dû donner mes mots de passe, Instagram, Facebook, mots de passe boîte mail, tout ça, et il fallait que je m'explique sur ces dessins-là.
Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir exactement? C'était quoi l'objectif?
Alors,
pourquoi ils vous demandent, pourquoi ils fouillent dans vos...
Alors pour les policiers, c'était assez drôle parce que pour eux, en fait, pour eux, le dessin, c'est un truc pour les enfants, c'est enfantin, tout ça.
C'est pas sérieux, quoi.
C'est pas sérieux. Et ils me disaient, ok, tu fais des très jolis dessins. Par contre, qui te donne des idées comme ça? Il y a qui derrière? Et je disais que c'était mes idées, c'était ma façon de voir les choses et que pour moi, c'était important. Après, ils me disaient, on a vu sur tes PC, parce qu'ils ont fouillé. On me disait, on a vu sur tes PC, tes factures, tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu prends sur ton temps de travail pour aller faire des dessins comme ça qui te rapportent rien?
Et à part des problèmes.
À part des problèmes. Et j'ai dit que pour moi, ça, c'est important. Que la jeunesse qui se soulève pour essayer de changer les choses et aller de l'avant, c'est très, très important. C'est encore plus important que de monétiser ou de gagner, de l'argent. Et voilà, moi, j'étais très, très investi dans ça.
Alors justement, on a oublié de dire quelque chose. Quand les 8 personnes là, elles sont arrivées, qu'elles ont frappé pour venir vous interpeller, c'est là que vous avez fait un petit flashback dans votre tête. Vous êtes dit, ces hommes-là, ils me disent quelque chose.
Quand même. Exactement.
Vous vous êtes rendu compte
Il y en avait 3 d'entre eux que j'avais l'habitude de croiser dans des cafés, des bars à Oran, comme ça, et qui étaient là. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais surveillé depuis le début. C'est-à-dire, il y avait tout le temps 2-3 personnes qui me suivaient, qui restaient. Enfin, j'étais observé et suivi.
Vous l'avez remarqué le jour où ils sont venus.
Oui, j'avais fait le lien le jour où je les avais vus.
Donc vos dessins posaient déjà problème, même si vous l'avez pas remarqué tout de suite. Du coup, vous allez faire 48 heures de garde à vue.
Oui.
Où il y a les interrogatoires. Donc ils cherchent, en gros, ils cherchent à savoir c'est qui vous paye. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, je sais pas, soit en Algérie, soit peut-être en France
soit oui.
Qui vous
pour eux, c'était ça. C'était surtout ça, oui.
Donc ils vont se rendre compte qu'il n'y a personne.
Qu'il n'y a personne.
Que c'est vous. Et qu'est-ce qui se passe après?
Alors après, je passe devant le procureur de la République. Alors moi, je me disais, tiens, je vais passer devant le procureur. Peut-être que les policiers ne comprennent pas un petit peu tout ce qui touche à l'art et à la liberté d'expression. Peut-être que le procureur, il va être plus sensible et il va peut-être plus comprendre ça. Quand je l'ai vu, c'était une jeune classe et tout ça. Elle m'a dit, expliquez-moi vos dessins. Elle était vraiment très, très gentille. Je lui ai dit, voilà. Elle m'a dit... Je lui ai dit, moi, je fais des dessins comme les autres caricaturistes qui sont dans des journaux, comme Dilem, comme Le I, qui sont des dessinateurs très connus en Algérie et qu'eux aussi font des dessins comme ça. Et là, elle me dit, mais vous savez, derrière ces dessinateurs-là, il y a des personnes et c'est des dessinateurs protégés. Vous avez qui derrière? Je dis, moi, j'ai personne, justement, peut-être vous, la justice, parce que j'ai personne qui me protège. C'est peut-être à vous de me protéger. Et là, elle m'a dit, ok, d'accord, elle avait noté. Et puis, je me suis dit, peut-être que c'est bon, c'est la fin des ennuis, alors que non. Une demi-heure après, j'étais devant le juge et c'était incarcération immédiate. D'ailleurs, le juge, quand il m'a vu, ça a duré 5 minutes. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer ce que je faisais. Il a regardé les dessins comme ça, le dossier. Il m'a dit, pourquoi vous vous mêlez de ça? Ça ne vous regarde pas. Et il a fait comme ça, prison.
Direct.
Donc, le jour même, c'était menottes et je suis parti à la prison.
À la prison d'Oran.
À la prison d'Oran, c'est l'une des plus vieilles prisons d'Algérie. Elle date de la période ottomane. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans un état complètement délabré. Mmh. Et moi, dans ma tête, la vision que j'avais de la prison, c'était des petites cellules. On est 4, on est 2. Puis voilà, quoi, comme on voit dans les séries et tout ça. Alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, la prison en Algérie, c'est une salle plus petite que ça, la moitié. Une grande salle avec 11 lits de chaque côté. Et on était 288 à l'intérieur. Donc 288 personnes avec un seul point d'eau et une seule toilette. Donc, je peux vous dire que...
C'est un grand dortoir, en fait.
C'est un grand dortoir avec des couffins... qui vont jusqu'au mur, des cafards, enfin, dans des conditions terribles. Et la prison en Algérie, c'est-à-dire que pour faire un café ou pour le seul truc qu'on peut faire peut prendre limite 2-3 heures. C'est-à-dire, par exemple, pour aller aux toilettes, il y a une file et il faut se mettre là-bas et attendre. Je vous raconte pas les conditions comment c'est. Pour dormir le soir, on dormait à même le sol. Et ça nous prenait aussi 3 heures pour s'organiser pour dormir, parce qu'il fallait qu'on se mette tous au fond, collés. Et on dormait comme ça en quinconce, comme des sardines. Tellement il n'y avait pas de place.
Quand vous voulez manger le matin, par exemple, bah...
On avait droit à une demi-baguette de pain chacun.
Ouais.
Et après, c'était... C'était des espèces de... Il n'y avait que de l'eau. Avec... Ils mettaient des médicaments pour calmer tout le monde.
Mais, du coup, vous ne mangez que du pain.
Que du pain.
Vous n'avez pas mangé les repas. Du coup, expliquez-nous pourquoi.
Bah, parce qu'ils mettaient, des calmants. Et j'avais vu que ça... Enfin, tout le monde passait son temps à dormir et tout ça. Et puis, c'était dégueulasse aussi. Mmh. Donc moi, c'était le pain chaud le matin. Une demi-baguette, je la coupe. Je mange un peu. Et le soir, je mange le reste, le bout. J'avais perdu presque 15 kilos. Pendant mon séjour.
Est-ce que à l'extérieur vous aviez senti qu'il y avait un soutien populaire quand même, parce que vu que les gens prenaient vos dessins pour aller sur dans la rue pour manifester, à un moment donné ils ont vu il y a plus de dessins qui arrivent là.
Ouais.
Ils ont appris en tout cas rapidement que vous étiez emprisonné.
Alors j'ai été emprisonné. Déjà j'avais aucun contact avec le monde extérieur. J'ai dû attendre 15 jours pour avoir mon premier parloir. Qui dure normalement 5 minutes avec une vitre, un téléphone, enfin c'est les parents, et qui sont venus me rendre visite et ils me disaient, tu sais, il y a plein de gens qui te soutiennent à l'extérieur, il y a sur les réseaux, la presse internationale, tout le monde se mobilise. Moi, j'y croyais pas trop. Parce que je me disais, fais des dessins, ça va pas faire
qui
beaucoup
va me soutenir.
De
quoi.
En même temps, il y avait beaucoup d'autres opposants qui étaient emprisonnés. Je me suis dit, moi. C'est peut-être juste pour qu'il me remonte un petit peu le moral. Mmh. Le 5 décembre, c'était mon jugement. Et je suis reparti devant le juge qui avait dit... Enfin, la sentence, c'était 1 an et demi de prison. Donc déjà là, j'étais fixé. Mmh. Et je me suis dit, c'est bon, on va partir sur 1 an. Les journées en prison, on ne peut rien faire. On est debout. Le seul truc qu'on peut faire, c'est peut-être de trouver une place pour s'asseoir un petit peu. Et c'était très, très éprouvant. Dans des conditions terribles, je peux vous raconter comme ça, mais la réalité, c'était vraiment...
Il faut la vivre pour ça.
Ouais, faut la vivre. C'était vraiment terrible. Et voilà, j'ai fait finalement que 1 mois et demi parce que justement, il y a eu tout le soutien de la communauté internationale et surtout des gens à Oran et en Algérie qui me soutenaient parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que une semaine après quand j'étais en prison je commençais à voir les gens qui rentraient qui avaient juste porté mon dessin donc c'était le dessinateur et tout
tous ceux qui l'avaient soutenu qui avaient porté
qui
vos dessins
porté
aussi
le dessin pendant la manifestation ça a duré 1 mois et demi et jusqu'à ce que je sorte je savais même pas que j'allais sortir ce jour-là.
J'avais le 2 janvier 2020.
Ouais, le 2 janvier 2020, journée ordinaire en prison avec mon petit livre. Et là, j'entends mon nom. On me dit, vous allez partir pour un autre jugement maintenant. Je dis, c'est hors de question. Moi, je pars pas sans mon avocat. Mon avocat n'est pas au courant. Je n'y vais pas. Je sors pas de prison. Ils m'ont dit, si. Vous allez... ils m'ont carrément de force. Une fois devant la juge, elle m'a dit, est-ce que vous voulez être jugé aujourd'hui? Je dis, non. Pas sans mon avocat. Elle m'a dit, vous êtes libre et vous allez être jugé en tant que personne libre. Enfin,
Vous avez trouvé ça bizarre?
Bizarre. Et après, le soir même, j'avais compris, c'était le jour où le président Tebboune voulait mettre en place un nouveau gouvernement. Donc, il a un petit peu lâché du lest. Et on a servi un petit peu à faire diversion.
C'est le symbole, quoi. Oui. Pour dire que Tebboune, voilà, il est élu aujourd'hui. Regardez, il commence déjà,
ouais,
à libérer.
Une petite grâce, voilà, il libère des opposants, certains opposants. Et...
Du coup, vous êtes rentré chez vous ?
Rentré chez moi.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est quoi la première chose que vous avez faite quand vous êtes sorti de prison ?
Vu ma famille, ma femme, mes amis, il y avait tout le monde qui était là. Et puis, reprendre des forces surtout. Parce que
c'était éprouvant.
Éprouvant et j'étais amoindri.
Du coup, vous allez venir en France,
oui,
et vous allez obtenir un prix.
Oui.
Et qu'est-ce que ça vous a fait déjà d'avoir ce prix ?
Alors, ça m'a fait... C'était un honneur. Déjà, je suis sorti le 2. Une semaine après, je me suis retrouvé à Angoulême.
C'était... Ça devait être très bizarre, ça. C'est-à-dire, vous êtes sorti de prison, une semaine après, vous êtes en France.
Je suis en France. Ouais. J'étais avec le crâne rasé, j'étais encore très amoindri. Et c'était vraiment un... C'est le prix Courage Artistique, qui est décerné chaque année à des artistes qui défendent la liberté d'expression et qui font soit de la prison, soit ils sont menacés. Donc, j'étais vraiment très honoré.
Alors du coup, après Angoulême, vous décidez de rentrer quand même en Algérie.
Oui.
Alors que vous savez qu'il y a une petite menace encore quand même. On ne sait jamais, ils peuvent, après 2 semaines de lune de miel avec le président, ça peut mal tourner.
Oui.
Du coup, vous retournez en Algérie, mais pour une raison précise.
Oui. D'ailleurs, il y avait pas mal de personnes qui m'avaient conseillé de rester en France à l'époque. Et même la direction d'Angoulême et tout ça m'ont dit, restez ici, n'y retournez pas, vous allez peut-être risquer votre vie. Surtout que moi, j'avais l'intention de continuer à dessiner quand même. Donc, je suis retourné. Et en même temps, parce qu'ils m'avaient confisqué tout mon matériel de mon entreprise. Matériel, c'est pas grave, mais c'est le contenu je voulais récupérer le contenu parce qu'il y avait des disques durs avec 10 ans de travail dedans. Que ce soit mes albums BD qui sont pas encore sortis, des projets... Et je me disais, ils ont peut-être réussi à prendre ma liberté, à me casser, mais s'il y a bien une bataille qu'il faudrait que je gagne, c'est bien ça, et surtout récupérer tout le matériel. D'ailleurs, c'était un matériel très spécifique que j'avais économisé pour acheter d'ici en France. Enfin, bref, pour moi, ça... Donc, je suis retourné en Algérie, ça a duré un an de bataille de tribunaux comme ça, et j'ai pu le récupérer. Une fois que je l'ai récupéré, j'ai fait mes valises et je suis venu parce que je me suis rendu compte aussi que je continuais à être suivi.
Ça, c'est ce que vous avez remarqué pendant que vous étiez en train de faire votre démarche pour récupérer votre matériel et tout ça. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui vous suivaient toujours.
Toujours, que des fois, on fuyait mes carnets de dessins. Et d'ailleurs, le juge, le jour où je suis sorti, il m'a dit, on vous libère, mais si jamais vous refaites des dessins, vous savez ce qui vous attend. Et je pense que quand un juge vous dit cela, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'espoir.
C'était Un micro dans la ville, présenté par Nouradine Agne.